Silence.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM, www.re2m.com et c'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Damien. Oh, je vois ta voix que tu es en pleine forme là.
Ça va bien, oui. Et toi?
J'adore quand tu donnes notre indicatif et tout, la voix. Ah, j'adore quand tu fais ça. Il y a d'ailleurs des copines auditrices qui aiment bien aussi. Il présente ça bien, je te le dis. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, on est content. Bonjour, chers auditeurs, on est content de vous retrouver. Voilà, c'est pour ça qu'on est de bonne humeur avec vous, toujours. Ben oui, on va parler des films, hein, des films. On espère qu'ils vont sortir tous, en tout cas, qu'il ne se passera rien, que tout va... Parce qu'il y en a des très jolis quand même, hein, vraiment. Ce serait dommage de les rater.
Oui. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite avec l'animation, le film d'animation qui sort en cette fin d'année, qui était attendu.
Ah oui.
Il y a eu un premier, maintenant c'est le deuxième. Oui. Ça s'appelle Tous en scène. Et donc, si on a envie de chanter, de danser, on va voir Tous en scène 2.
Ah oui, ils sont adorables en plus. 1h50, c'est pas mal quand même, bon, voilà. Et puis, on a, c'est à Garth Jennings, c'est lui le réalisateur, il s'est mis au piano. C'est un réalisateur, scénariste, acteur britannique, il a 49 ans, 17 ans de carrière, 7 tournages à son actif, 3 nominations. Et alors, on nous dit que c'est à partir de 6 ans. Oh, je vais appeler ma petite Naya, là, ma petite copine, parce que ça va lui plaire, ça. Alors, il y a 3 nominations, quand même. Alors, il y avait une nomination... Oui, parce qu'il a été tourné il y a un petit moment, quand même. Hein. Il y a eu une nomination, par exemple, à l'Alpe d'Huez en 2017 et au Golden Globes en 2017. Donc, on aurait dû l'avoir beaucoup plus tôt. Mais je ne vais pas dire ce qui s'est passé parce que tout le monde le sait. On connaît les retards. Voilà, Tous en scène 2. Alors, oui, tu l'as dit, il y avait eu Tous en scène 1. Bah, bien sûr, il y a eu le premier. Alors, qui était une réussite. Hein. C'était vraiment...
Tout à fait, oui.
Ah oui, une réussite complète. Ça a très, très bien marché. D'ailleurs, il est sorti. Dis donc, celui-là, justement, est sorti. Ben, précisément, l'autre, ils ont entamé le travail, parce que c'est du travail, l'animation, à partir de janvier 2017, puisque Tous en scène 1 est sorti. En janvier 2017, il avait 3 nominations et toujours le même réalisateur, bien sûr. Et c'était, on le sait, enfin on s'en souvient hein, quand même, ceux qui l'ont vu ou même ceux qui n'ont pas vu, on connaît un peu l'histoire. C'est l'histoire de Buster Moom, hein, qui est un élégant koala et qui dirige un grand théâtre. Ça, c'est dans le premier déjà. Alors il était dans Tous en scène 1. On dit que effectivement, jadis illustre théâtre tombé en désuétude, voilà. Mais ça fait rien parce que Buster Moom est un éternel optimiste. Il est un petit peu bougon. Mais alors, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est son théâtre et il est prêt à tout pour le sauver. Voilà ce qui se passe dans la première. Alors, il avait organisé un casting, évidemment. Hein, bien. 5 candidats avaient été retenus. Une souris, séduisante, et malhonnête. Un jeune éléphant, timide, dévoré par le trac. Une truie, mère de famille, débordée par ses 25 marcassins. Il y avait un jeune gorille délinquant qui cherche à échapper à sa famille. Et il y avait un porc-épic punk qui peine à se débarrasser de son petit ami à l'ego surdimensionné parce qu'il voudrait faire une carrière solo. Voilà, ils sont venus auditionner pour trouver l'opportunité qui pourra peut-être changer leur vie à jamais. Alors dans celui-là, dans le premier, on avait les voix de Patrick Bruel, il y avait Jennifer Bartoli, il y avait Vincent Ropion aussi dans les voix françaises. Donc maintenant, on peut aller jusqu'à la scène 2, hein, tous en scène. Donc Buster et sa troupe ont... Pardon, c'est la voix. Buster et sa troupe ont fait du nouveau théâtre. Moon, hein, puisqu'il a, il a ouvert un nouveau théâtre, la salle de concert à la mode. Il est temps de voir les choses en plus grand. Monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City. Flanqué de sa troupe, dont Rosita, la mère de famille nombreuse, constamment débordée, Ash, la roqueuse, Porky Pig, Johnny, le gorille romantique, Mina, l'éléphante, à la timidité maladive, sans oublier l'incroyable Gunther, le cochon le plus extraverti de la profession. Buster va devoir trouver comment se frayer un chemin dans les bureaux inhospitaliers de la prestigieuse Crystal Entertainment Company et y attendre son directeur, le loup du showbiz. Oula, Jimmy Crystal, qui règne en véritable nabab. Ouh oui, le vilain, dans l'effort désespéré pour attirer l'attention de Jimmy, Gunther lance soudainement un pari fou que Buster Moon relève sur le champ. La promesse de faire participer au spectacle le roi du rock, le lion Clay Calloway. Ouais, le problème est que Buster n'a jamais, jamais rencontré Clay. Surtout que ce dernier s'est retiré de la scène 10 ans plus tôt, après avoir perdu sa femme. Mais pire que tout, notre koala préféré ne se rend pas compte qu'il fait cette promesse à l'escroc, à l'ego surdimensionné, qui préférerait se défenestrer quelqu'un même d'ailleurs, plutôt que on lui mente. Il veut pas qu'on lui mente. Eh oui. Tiraillé entre les rêves de spectacle dithyrambique de Gunther et les menaces quasi littérales de Jimmy Crystal, qui en profite pour remplacer le rôle principal tenu par Rosita, par sa propre fille pourrie, gâtée, Porcha. Buster va se mettre à la recherche de l'idole du rock pour le persuader de revenir sur scène, le fameux Clay. Ce qui avait commencé comme une course au succès va finir par rappeler à tous que la musique est le remède ultime pour tous les cœurs, même les plus brisés. Il faudra qu'on se souvienne de ça, hein, que la musique c'est bon pour tout le monde et pour les cœurs brisés également. C'est très très chouette hein, quand même. Alors là, bon, bah, on a Jennifer Bartoli toujours dans les voix, on a Elodie Martelet, Camille Combal dans les voix françaises, hein, pour Tous en scène 2. Très, très, c'est mignon. Mais même si on n'a pas vu le premier, en fait, on peut quand même voir le deuxième. Hein, y a pas de souci. Hein. C'est une suite, effectivement. Mais bon, on peut le prendre en route. Hein. Vraiment. Là, c'est pas. Il faut pas vous dire, mes chéris, oh, ben, je n'ai pas vu le premier, c'est pas la peine d'aller voir le deux. Hein. Non, du tout. On peut. Ah, au fait, c'est le chanteur Pharrell Williams qui double le personnage, un personnage qui s'appelle Alfonso. Donc voilà,
dans la version originale.
Oui, bah, ah oui, bien sûr. Mais on le connaît quand même, hein, le chanteur Pharrell Williams. Et puis il y a le chanteur de U2 aussi, qui prête sa voix à Clay Calloway, c'est-à-dire le lion qui était superbe et généreux, et puis qui s'est retiré de la scène. Alors c'est un vieux lion et véritable légende du rock, quoi. Voilà. Donc c'est lui qui lui prête sa voix. Alors dans le film, il y a 3 chansons phares de U2. Il y a Hostile. Alors attention, les titres sont très longs. Hein. Si on connaît U2, on sait que c'est toujours très long. Hein. Ils ont des titres à rallonge. Ah oui. I still haven't found what I'm looking for. Ça, c'est le premier titre. Deuxième titre, Where the streets are no name. C'est terrible. Quand j'ai vu la longueur des titres, je me suis dit, mon Dieu, on va jamais y arriver. Et l'autre, c'est You can... Attends, Stuck... In a moment, ouais c'est ça, stuck in a moment, you can't get out of. Ça c'est le troisième. Il y a un nouveau morceau en exclusivité. Your song saved my life. Bon, ben, ça, celui-là est beaucoup plus court. C'est bien. Voilà, donc c'est Bono qui chante dans ce film. Plutôt agréable, parce que Bono, bon, ben, on l'aime beaucoup. Hein, il a une voix superbe. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà.
Et on écoute la bande-annonce « Tous en scène » de...
Oui, je ris à cause des titres aussi longs. C'est terrible.
You used to call me on my cell phone.
Les amis, c'est à nous, maintenant, tout de suite.
Stop, je veux de grands shows, de grandes idées.
Hé, hey, moi j'ai une énorme idée, avec Clay Calloway.
Wow, vous connaissez Calloway?
Clay Calloway vit comme un reclus, personne l'a vu depuis 15 ans.
Je vous donne 3 semaines pour me présenter un show parfaitement huilé.
Je ne vous décevrai pas, monsieur.
Il vaudrait mieux, sinon je vous balance du toit. There's nothing
holding me back. J'ai toujours rêvé de me produire à Rexor City depuis que je suis toute petite. There's nothing
holding me back. Ici, on est à Rexor City, pas dans ton petit théâtre amateur.
Mais comment il me stresse, lui? Et toi?
Sur les pointes, je ne vois pas tes pointes du tout.
Voici ma fille Porsche. Elle veut rencontrer Calloway, elle est fan.
Mon assistante est en route pour le rencontrer en ce moment même.
Votre destination est sur votre droite.
Sur ma droite, ça marche.
Si tu pouvais me donner des leçons de danse, tu me sauverais la vie.
Comment je peux savoir que t'es pas un type chelou? Comment je peux savoir si t'es réglo?
Tu fais quoi là?
Je savais que t'étais chelou.
Musique. She says that she's
never afraid. Et maintenant, la star de notre spectacle, Rosita.
Oh, tu me laisses... Je peux essayer?
Non.
Elle a peur. Elle sera jamais capable de jouer ce personnage.
C'est peut-être mieux. Je vais t'écrire un autre rôle, Rosita.
L'ambiance.
Le voilà. Clay Calloway?
Allez-vous-en!
La musique ne vous manque pas? Vous n'avez qu'à recommencer à jouer?
Non, je ne peux pas! Je n'ai plus entendu une seule de mes chansons depuis plus de 15 ans. Et pour une très bonne raison.
Et alors, pour connaître la raison, vous pouvez aller voir Tous en scène 2.
Oui, encore que je l'ai dit au début dans le synopsis. Oui, mais bon, pour ceux qui on ne va pas le redire, parce qu'il faut... Il faut
laisser un peu de suspense.
Mais il est chouette, quoi. Les voix sont évidemment magnifiques. Hein. On les reconnaît. Hein. La musique est très, très belle. Hein.
C'est ça. Et donc, nous allons maintenant continuer avec une comédie. C'est également un deuxième film du même nom. Oui. Ça s'appelle Mince. Alors, film de Charlotte de Turckheim.
Ben oui, je l'ai pas fait exprès, c'est un 2 aussi.
Et voilà.
Oui. Ah ben oui, ben on se lance dans les 2. Alors oui, Mince alors, 1h45, c'est une comédie, bah tu l'as dit, de Charlotte de Turckheim. Bon, on la connaît hein, mais quand même, bon, réalisatrice, scénariste, actrice française, voilà. Elle a 66 ans, 46 ans de carrière quand même hein. Elle a commencé très 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 jeune. C'est vrai, oui. Elle a 68 tournages, mais attention, c'est 5 longs métrages et 63 films comme actrice. Quand je parle de tournage, je parle aussi bien de mise en scène que de jeu, évidemment. Donc, mais elle a quand même 5 longs métrages à son actif. Mince 2. Oui, alors on l'a dit, il y a le Mince 1.
Mince alors.
Eh ben, Mince alors, oui.
Oui.
Mince alors, oui, c'est toujours le même. Alors, le premier film, donc lui, il est sorti le 28 mars 2012. Le premier Mince alors. Alors, il a eu une nomination d'ailleurs au festival du film de français d'Albi. C'était en 2012, c'était le coup de cœur. Le prix, la nomination, c'était coup de cœur. Donc, c'était. Bon, ben voilà, on retrouve les mêmes personnages. On avait donc, il y avait Lola Dewar, qui est la fille de Patrick Dewar, hein, qu'on connaît, Patrick Dewar, qui est décédé malheureusement à 35 ans, et qui était un très grand acteur. Et ben voilà, sa fille Lola est tout à fait charmante et c'est une bonne comédienne aussi. Donc elle suit les traces de son père. Et puis on avait... Alors il y avait Lola et donc il y avait Grégory Fitoussi qui jouait le mari d'ailleurs de Lola qui s'appelle Nina dans le film. Dans le premier, qui est jolie et ronde, et Gaspard, lui, il n'aime que les femmes minces. Oui, ça pose un problème. D'ailleurs, le problème va arriver puisque son mari va la tromper. Il va s'afficher d'ailleurs quasiment avec sa maîtresse, voilà, avec une femme qui est très très mince, bien sûr. Donc, Nina, pour tenter de le séduire dans le premier film, à nouveau, accepte à contre-cœur un cadeau, une cure d'amaigrissement à Bride-les-Bains. Voilà, ça se passait là-bas, le premier film à Bride-les-Bains. Bride-les-Bains existe, hein, d'ailleurs, hein, c'est un centre de cure, c'est en Savoie, région Alpes, c'est quoi, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, hein, je crois, c'est ça, la Savoie. Et qui, donc, c'est un centre qui propose des cures thermales. Et c'est aussi, d'ailleurs, une station de ski. Bride-les-Bains pour les skieurs, c'est... mes chéris, si vous skiez, vous connaissez certainement au moins de nom cette station. Et puis voilà, donc il y avait aussi Victoria Abril dans le premier qui jouait une avocate. Il y avait, on va retrouver aussi Catherine Osmalin qui jouait le rôle d'Émilie, une mère de famille en surpoids. Voilà. Un surpoids d'ailleurs un peu dangereux pour sa santé, ça explique qu'elle vienne dans ce centre. Et c'était aussi pour plaire à son époux quand même aussi, hein. Elle voulait un petit peu, voilà. Donc... La rencontre de ces trois personnes va déclencher un raz-de-marée donc dans ce centre-là, c'est sûr. Hein. Donc là, il y avait également Julia Piaton, qui est la fille, enfin une des filles de Charlotte de Turckheim. Il y avait Médine Ebou aussi dans le premier. Voilà, il y avait Émilie Gavoy-Kahn. Ça, c'est marrant, Émilie Gavoy-Kahn. Moi, je la connaissais pas tellement finalement comme actrice, et en fait, on peut la voir en ce moment dans une série que vous regardez sûrement, mes chéris, tout le monde l'a regardé au moins une fois, qui s'appelle « Les petits meurtres d'Agatha Christie ». Elle est passée d'ailleurs, on est lundi, oui, elle est passée on est mercredi, pardon, elle est passée la semaine dernière d'ailleurs. Et c'est elle qui joue la commissaire Annie Gréco, c'est Émilie Gavoy-Kahn, qui s'en sort vraiment très très bien. Elle est très bien dans ce rôle, voilà, pour faire sa connaissance. Bon, comme quoi les séries, je ne suis pas très série, mais je reconnais que parfois, ça nous fait découvrir des acteurs quand même, voilà, qu'on ne connaît pas trop bien et qu'on va voir là, comme ça, semaine après semaine, pour pouvoir admirer leur jeu. Et alors, mince alors deux, bon, ben, 1h45, je l'avais dit, donc là... On va retrouver les personnages. En fait, c'est Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure jeûne et détox au cœur de la Provence. Avec l'aide de Baptiste, quand même, qui est un yogi et homme à tout faire. Il y a également Jessica, qui est une masseuse tantrique. Il y a Maxime aussi, qui est un séduisant équithérapeute. Dans ce nouveau centre. Parce que là, on a quitté évidemment Bride-les-Bains, hein, et on arrive en Provence. Alors, on a Charlotte de Turckheim, donc c'est Isabelle. On a toujours Lola Devers, c'est toujours Nina. On a Catherine Osmalin, c'est toujours Émilie. Et puis là, alors, on n'a pas, par contre, il n'y a pas Victoria Abril. Je crois qu'elle était prise sur autre chose et qu'elle ne pouvait pas participer au tournage, si j'ai bien compris. Alors, on a Charlotte Gassiot. Alors Charlotte Gassiot, on la connaît quand même, c'est la fille de Michel Bernier, cette comédienne et cette humoriste qui est très très drôle. Et son père, c'est Bruno Gassiot, qui est quand même très connu aussi, scénariste, humoriste.
Également, oui, qui a créé les Guignols de l'info.
Tout à fait, c'est ça, absolument, sur Canal+, oui. Et alors, on donne de temps en temps la taille de Charlotte Gassiot, elle mesure 1m80. Charlotte Gassiot, c'est fou, elle a 34 ans, 1m80.
En même temps, elle ne grandira pas plus.
Non, non, mais c'est extraordinaire quand même, quoi. Cette jeune femme comme ça, très, très, très grande. Alors, on a aussi Patrick de Valette dans les rôles principaux, Barbara Bolotner, on a Marc Rizzo, alors il y a Johanna Piaton. C'est une autre fille, je parlais dans le premier, il y avait sa sœur, cette fois c'est Johanna Piaton qui s'y colle, elle a 30 ans, c'est la petite dernière d'ailleurs de Charlotte de Turckheim. Ses filles sont pleines de talent, je trouve qu'elle a absolument raison de les faire tourner dans ses films parce que ça vaut la peine. Elles sont très jolies et elles sont très douées. Donc pourquoi pas? Hein, pourquoi pas? Je trouve ça plutôt bien, après tout. Alors, en fait, le Charlotte de Turckheim, elle voulait, dans cette suite, elle voulait aborder le problème des adolescents qui sont de plus en plus nombreux à souffrir d'obésité. Elle dit « Je voulais montrer ce que cela représente à cet âge de ne pas être dans la norme. D'un autre côté, je me retrouvais avec deux comédiennes principales, Catherine Osmalin et Lola Devers, qui étaient devenues, alors là, évidemment, c'est la surprise, qui sont devenues minces. Mais là, elle parle des actrices. Effectivement, Lola Devers est devenue mince, oui. Et Catherine Osmalin, incroyable aussi, quoi. Elle était quand même assez forte, hein, dans le premier. Et là, elle est mince.
Elle a beaucoup maigri depuis quelques années.
Mais elle a gardé son talent. Hein, ça, Dieu merci, elle a gardé son talent. Parce que c'est une grande comédienne, quand même. Oui, oui, et sa voix, oui. Et Lola Devers, bah, elle est toujours aussi charmante. Hein, voilà, ça ne change pas grand-chose. Sauf que là, Charlotte de Turckheim a eu quand même la surprise. Effectivement. Ça, alors elle dit, ça prêtait quand même à rire. Parce que l'idée de faire de Lola la directrice de la cure est venue assez vite, en fait. Hein, cette idée de. Mais pour Catherine, cela a été un vrai challenge. Charlotte de Turckheim nous dit qu'avec sa co-scénariste, elles ont inventé des histoires beaucoup plus rocambolesques pour qu'elles puissent, ces deux actrices, pour qu'elles puissent quand même en ayant maigri, participer au film, parce que c'était quand même, normalement, dans ce centre, on parlait aussi de femmes qui ont un surpoids, etc. Elle voit arriver ces deux actrices qui ont minci. Alors il a fallu, quand elle leur fait lire le scénario, il a fallu donc broder et inventer des histoires plus folles les unes que les autres. Hein. Alors elle dit, jusqu'au moment où nous nous sommes dit, nous dit Charlotte de Turckheim, non, le plus marrant, c'est qu'elle veuille regrossir. Et là, elle parle de Catherine Osmalin, qui dans le film, effectivement, veut regrossir. Enfin, il faut aller voir, hein, pour voir pourquoi. Moi, je sais pourquoi, mais je ne vais pas le dire. Voilà. Et donc, c'est une... Oh, par contre, c'est une comédie extrêmement lucrative. Parce que Mince alors, par exemple, oh là, excusez-moi, qui avait très bien marché au box-office, avait quand même attiré 1 500 000 spectateurs en salle. C'est quand même pas mal, hein. C'est un beau chiffre, hein. Pour une comédie française, elles sont pas toujours appréciées, les comédies françaises. Bon, on sait pas pourquoi, mais bon, eh bien, c'était pas mal du tout. Alors là, dans ce deuxième volet, Charlotte de Turckheim tient un rôle plus important que dans le premier. En fait, elle nous explique pourquoi. Ce qui est drôle, c'est que je n'ai pas eu le choix. Tout le monde trouvait que mon côté maternel et bienveillant convenait parfaitement au personnage d'Isabelle. Voilà, alors j'y suis allée, un peu à contre-cœur. Je n'aime pas jouer quand je réalise, parce que ce qui me passionne à ce moment-là, c'est la mise en scène. Mais finalement, cela m'a beaucoup aidée parce que ça m'a permis d'accompagner les jeunes. En leur donnant la réplique, je savais que j'allais leur faciliter la tâche. Je jouais et j'étais à la fois comme un guide pour eux pendant les scènes. C'était comme ça que je le dirigeais de l'intérieur. Alors effectivement, c'est surtout qu'elle a travaillé avec des jeunes. Il y a des jeunes dans le film qui sont débutants, hein, quasiment. La musique aussi a été très travaillée. Elle voulait une bonne musique. Donc, c'est Paul-Éric Rouvière, qui est un arrangeur, hein, et un réalisateur de musique de films français. Il a 45 ans. C'est lui qui a cofondé le duo électropop français Ledge en 1999. Si vous connaissez, mes chéris. Je ne sais pas si tu connais, toi, Damien.
Non.
Ledge, le duo... non, Ledge.
Ça ne me dit rien.
Et voilà, donc... ce qu'il nous dit, en fait, c'est que c'est difficile d'imaginer une musique sur une comédie. Et oui, c'est plus facile sur un drame, en fait, de créer une musique. Et oui, on comprend un peu pourquoi, quand même. Hein, parce qu'il nous dit, on est tenté de faire quelque chose de sautillant, trop joyeux. Alors qu'au contraire, il faut en faire le moins possible. Donc, ce monsieur, Paul-Éric Rouvière, a bien compris ce que voulait Charlotte de Turckheim pour son film. Alors, il a fait un travail d'orfèvrerie, nous dit-elle. Voilà, c'est quand même... Voilà. Et Baptiste, par exemple, le rôle de Baptiste est joué par Patrick de Valette. J'ai cité son nom tout à l'heure. Il n'avait que 2 jours de tournage, en fait. Mais comme elle nous dit, Charlotte Turquem, chaque fois qu'il y avait quelque chose à faire en plus, je pensais à lui. Donc, du coup, j'ai étoffé son rôle. Eh bien, oui. Ce qui était plutôt une chance pour lui, justement. Ça a dû lui faire très, très plaisir de rester un peu plus longtemps pendant le tournage. Voilà, donc, on retrouve tout, voilà. Mais c'est très agréable de retrouver, d'ailleurs, Catherine Osmalin et Lola Dever, parce qu'elles sont, faites pour ce genre de film, tout à fait, pour ces histoires. Elles sont faites pour ça. Donc, c'est très, très agréable, quand même. Et puis, il y a des acteurs, je l'ai dit tout à l'heure, hein, des jeunes acteurs, débutants, voilà. Alors, ils sont quand même là. Alors, elle a cité quelques noms, parce que ça leur ferait plaisir qu'on pense à eux. Angelina Bertrand Gomez, on a Sabri Gazala, on a Brice Verger-Doucy, on a Charlotte Nbeka et Jean-Marc Otlingos dans les rôles de jeunes. Pour qui c'est le premier long métrage, voilà. Donc on leur souhaite beaucoup de chance pour la suite de leur carrière, évidemment. Et ce que nous dit, pour finir, ce que nous dit Charlotte de Turquem, c'est que le film Mince à l'ordeur raconte un peu leurs propres histoires. Pour certains d'entre eux, nous dit-elle, c'est presque même un film militant. On s'est beaucoup vu en amont. Avec eux, bien sûr, je les ai vus beaucoup, parfois même dans le square de mon arrondissement. Ce n'était pas vraiment des répétitions. Nous faisions connaissance. Ils ont appris à s'apprécier. Ils racontaient leur trajet. Voilà. Donc, c'était... Elle est quand même... c'est une sacrée bonne femme, quand même, Charlotte de Turquem, finalement. Bah, je ne dis pas qu'elle fait les films non plus du siècle, hein, parce que bon, il n'y en a pas tant que ça, les films du siècle. Hein. Mais elle fait des comédies agréable, elle a toujours des castings impeccables, et ça détend, ça fait un bien fou. Voilà, on va pas se prendre la tête tout le temps non plus, on est d'accord.
Mince alors, et là, bah, on l'écoute.
Les gars, il n'y a pas de réseau, mais c'est trop du cul du monde.
Bonjour tout le monde.
On est très heureuse de vous accueillir dans notre nouveau centre de jeûne et de détox.
Oh la vache!
Mais t'as fondu comme beurre au soleil!
T'as perdu combien?
On peut s'embrasser avant de passer à la pesée?
1, 2...
J'ai le trac, je te raconte pas.
T'inquiète, les gros, c'est pas ce qui manque.
3. On dirait du vomi.
Ça va nettoyer vos intestins.
On dirait l'eau de l'aquarium, là.
Je suis là pour faire un jeûne, je préférais me taper un jeûne de 25 ans.
On est là pour passer du bon temps ensemble.
Non, on est là pour maigrir. Si je veux passer du bon temps, je me fais un plateau de fromage, tu vois.
On peut vivre sans être toujours dans un rapport de séduction, quand même.
Ah bah grave, hein, la preuve.
À qui le tour?
J'adore déjà cette cœur.
À quoi ça sert d'être mince? Ça va pas empêcher Carlos de me quitter.
Dans ton cas, le problème, c'est peut-être pas le poids.
Carlos m'a quitté pour un homme. Et si je veux le récupérer, faut que je redevienne grosse.
Saucisse ou jarret?
Oh là là, les deux. Est-ce que tu crois que ça peut redémarrer avec Carlos?
Quand t'as fait ton coming out, c'est très rare que tu fasses ton coming back.
J'ai une question à poser.
Ouais.
Vous êtes à l'aise au lit?
Pour maigrir, il faut de la volonté.
Moi, la seule fois où je comprends le mot volonté, c'est dans la phrase buffet à volonté.
En fait, il faut enlever ses complexes avant d'enlever sa culotte.
C'est les minces qui sont au pouvoir.
Non, Angela Merkel, elle dirige l'Allemagne et elle a le visage qui tombe. Oh là là, c'est magnifique, c'est des framboisiers.
Bah, si tu fumes les feuilles, peut-être que tu verras des framboises.
Ah, et voilà donc, mince, ouais. Alors...
Pour se détendre vraiment quand même. Hein,
ça, ah oui, tout
ça
à fait.
Ça peut faire du bien pour les fêtes là quand même, même voilà. Après d'ailleurs.
C'est hein. Un moment de détente.
Mais oui, tout à fait. Mince, le secret est dévoilé. Je ne voulais pas dire pourquoi Catherine Osmalin, le personnage veut grossir, veut regrossir. Ah, elle parle de son mari.
Eh oui,
ah, mince.
Si vous avez suivi, ben vous l'avez entendu.
C'est dommage, ben oui. Ah, c'est ça, les bandes annonces quelquefois dévoilent des petites choses qu'il vaudrait mieux garder un petit peu pour le film. Bon, ça arrive.
Et maintenant, c'est un film d'Ismaël Ferrouki que l'on retrouve, un film qui s'appelle Mika.
Mika, oui, Mika. Alors, c'est un drame marocain et français. En fait, c'est un événement sportif également, hein. Drame, événement sportif. Ça dure 1h43. Ça a été présent, le film a été présenté au Festival du film francophone d'Angoulême en 2020. Tu as dit Ismaël Ferrouki, oui, réalisateur, scénariste, dialoguiste français. Et il a 59 ans, il a 4... oui, c'est ça, il y a 4 longs-métrages. Ouais, dont il y a 2 courts-métrages entre 93 et 96 qui ont été très bien reçus. Et 4 longs-métrages. Il a 2 téléfilms également à son actif, entre 97 et 2000. Et les 4 longs-métrages s'étalent en 2004, 2007, 2011 et Mika, 2021. Voilà, il a également travaillé comme scénariste avec le grand réalisateur Cédric Kahn. Et là, il a dû apprendre un tas de choses, effectivement, avec Cédric Kahn, qui est quand même un sacré réalisateur. Alors, en 2011... Pardon, on lui doit, il a scénarisé le film de Cédric Kahn en 2011, Les Hommes Libres, avec Tahar Rahim et Michael Lonsdal. C'était un film historique, un drame film historique, également qui se passe d'ailleurs dans les années 42 à Paris. Voilà. C'est des hommes qui combattent ensemble pour la liberté au-delà de leurs différences. Il est très beau. Les Hommes Libres. Mes chéris, si vous n'avez pas vu, vous pouvez le trouver en DVD, pas cher du tout, 2011, hein, et il vaut vraiment la peine, il est très beau. Très, très beau. Des gens qui, normalement, ne devraient pas se rencontrer, ne devraient pas s'entendre, et qui vont quand même faire cause commune pour la liberté. C'est toujours très beau, ça, c'est une très belle image. Et donc là, Mika, nous allons retourner à Mika. Mika, c'est un enfant issu d'un bidonville, qui se retrouve propulsé comme homme à tout faire dans un club de tennis de Casablanca. Fréquenté, ce club, par la nomenclatura. Ah, la nomenclatura. Ah ouais, oui, tu parles d'un mot, c'est un mot un peu bizarre, mais ça veut dire le haut du panier, en fait, hein. On peut traduire, marocain, quoi, puisque c'est fréquenté par ces gens, justement, qui sont, voilà, tout en haut. Alors, prêt à tout pour changer son destin, il va se faire remarquer par Sofia, une ex-championne qui va le prendre sous son aile. Mika, alors, la Sofia, c'est Sabrina Ouazani. Quelle comédienne, excellente comédienne, Sabrina Ouazani. Mika, alors Mika, on ne le connaît pas encore, c'est Zakaria Inan. Zakaria Inan, qui a l'âge du rôle, hein, qui est adorable absolument, et qui a des dons pour le cinéma, à mon avis. Il s'en sort très, très bien. On a Rachid Fekak dans les rôles principaux. On a Mohamed Azlahab. Le film aurait dû sortir en 2020, normalement. D'ailleurs, il a été présenté au Festival d'Angoulême en 2020. Donc, il a eu aussi... Ah ben oui, il y a aussi 7 nominations au Valois, au Festival du film francophone d'Angoulême. Oui, c'est 7 nominations. Voilà, c'est ça, il a été présenté et il a 7 nominations au Valois. Le Valois, quand on a le Valois, c'est un très joli prix. Bon, là, c'est juste une nomination, mais c'est pas mal quand même. Il y en a 7. Là, c'est une belle réussite quand même. Alors, en fait, Ismaël Ferrouki, là, c'est quand il a fait un voyage, c'est lors d'un voyage au Maroc qu'il a rencontré un ramasseur de balles qui était issu d'une famille pauvre et qui était devenu entraîneur à Casablanca. Alors cette histoire l'a marqué, l'a beaucoup marqué, Ismaël Ferrouki. Et puis il y a quelques années à Paris, nous dit-il, tard dans la nuit, je tombe sur un groupe d'enfants de 10 à 15 ans venus du Maroc, parlant mal le français. Après un échange un peu tendu, et grâce à quelques cigarettes que j'avais en ma possession, ils ont fini par m'accepter. Très intrigués par leur présence à Paris, je les ai questionnés. Ils m'ont avoué pourquoi ils avaient quitté leur pays et comment ils étaient venus en France, ce qu'ils avaient subi ici et dans leur pays d'origine. Eh bien, Mika, le film, est né de ces deux événements. Sacrée histoire aussi, ça, quand même. Ben, Mika, le film est un film sur l'enfance, en fait. Hein. Voilà. Mais c'est son truc, ça, Ismaël Ferrouki. Il parle, dans ses précédents films, il parle aussi de l'enfance, justement. Ouais, il traite essentiellement des écarts culturels et de la transmission, et à travers cela, de la complexité des relations humaines. Pour moi, dit-il, l'enfance est à la fois l'innocence et l'apprentissage, mais aussi un moment où tous les rêves sont possibles. Faire un film sur l'enfance me permet, moi, de rester dans la légèreté, même dans les situations les plus graves. Eh oui, spécialiste de l'enfance, malheureuse quand même, hein, l'enfance un peu maltraitée. Alors, dans le film, il y a de nombreux signes poétiques, magiques, comme dans les contes, en fait. Et ce sont des instants qui jalonnent la vie de l'enfant, Mika. Alors, parmi eux, parmi ces signes poétiques, il y a les oiseaux, il y a les nuages. Voilà, le réalisateur nous dit qu'il y a en chacun de nous une force, un pouvoir magique qui peut faire des miracles. Ça, il faut qu'on le retienne, mes chéris, quand même, c'est important. Hein, en chacun de nous. Ah! C'est agréable en plus, hein. On a ça, on a un pouvoir magique et on peut faire des miracles. Pourquoi pas? Surtout pendant la période de Noël, justement. N'est-ce pas la période des miracles, n'est-ce pas, Damien?
C'est vrai.
Eh oui, cette jolie période. Voilà, et cette force-là, ben, ça s'appelle la force de volonté. Voilà ce qu'il nous dit. Ça, elle nous permet de croire en nos rêves les plus fous. C'est un poète, ce réalisateur, en même temps. Hein. Il a quelque chose. On aime ce qu'il nous dit. Ouais, c'est un poète. On aimerait avoir dans notre émission un monsieur comme ça, là, et qui nous raconte un peu son cinéma. On aimerait. N'est-ce pas, Damien?
Ismaël Ferrucchi, avec son film Mika.
Mika,
et ouais. Maintenant, c'est un film de Louis Garrel,
oui.
Qui est donc réalisateur et acteur dans ce film, en compagnie de Laetitia Casta.
N'est-ce pas?
Et ça s'appelle La Croisade. On écoute la bande-annonce et on en parle après.
Oui, merci.
Amour?
Je suis là, hein. Salut.
Ah bah t'es là, toi? J'ai pas vu de la trottinette en bas.
Je l'ai vendue.
De quoi?
En gros, on met tous un peu d'argent et on vend des choses.
Et vous vendez quoi?
Elle est où, ma robe Dior?
Quelle robe Dior?
Mes affaires vintage. Tu les mettais jamais?
Non mais attends,
Joseph, mais...
Attends, t'as pas touché à mes affaires, Joseph?
Oh, j'ai juste pris tes chaussures en or et ton blouson en vert. Pétez.
Quoi, Joseph, t'as pas touché à mes montres?
Oh là là.
Non mais Joseph, c'est quoi ça? Mais t'es malade, c'est des montres de collection!
Vous êtes combien à avoir fait ça? Mais 850.
N'importe quoi.
Bah si, si.
Mais pour faire quoi? Ils viennent pour faire quoi?
Pour sauver la planète, papa.
Le jeu que vous faites, là, c'est pour la télé.
Bah écoutez, apparemment, c'est pour sauver la planète.
Ah, ok, d'accord.
Bon, et c'est quoi cette idée?
En fait, on va faire une très très grande mer en Afrique.
C'est bien, les enfants. C'est beau projet.
Et vous étiez au courant de rien?
Rien du tout. Tu sais, j'ai bien réfléchi, là. Et si tout ça, c'est vraiment sérieux, leur projet? Moi, je laisserai pas notre fils partir tout seul. Je partirai avec lui.
Non, mais tu rigoles, là.
Je me demande si t'es pas jaloux.
Bah, de qui?
De notre fils. Son courage.
Je te remercie.
De rien.
Là.
Toi, j'ai acheté des poubelles avec des couleurs différentes pour faire le tri, c'est plus facile, non?
Eh oui, c'est plus facile, mais c'est pas la finition. Et donc, La Croisade donc, de Louis Garrel.
Je rappelle quand même que c'est une comédie. Hein.
Eh oui,
on
oui.
L'entend crier, mais bon, ça ne va pas durer.
Non, c'est une belle comédie. Donc, alors, de quoi ça nous parle? On l'a un peu compris.
Oui, très belle comédie. Bah oui,
on te laisse nous expliquer.
Là. Enfin, on rappelle quand même pour Louis Garrel, alors réalisateur, scénariste, acteur français. Il a 38 ans. Il a une sacrée carrière pour 38 ans, d'ailleurs. Hein. Oula, il était vraiment fait pour ça, lui. En fait, il a 33 ans de carrière. Parce que, figurez-vous qu'il a commencé à faire du cinéma à l'âge de 5 ans.
Oui, parce qu'il connaissait quelqu'un qui était réalisateur, non?
Ah ben, penses-tu à la famille Garrel? Ah mais oui, oh là là, mais là, il est le fils de Philippe Garrel, n'est-ce pas? Il est le petit-fils de Maurice Garrel, qui est décédé, lui, en 2011, un réalisateur, acteur, grand réalisateur et grand acteur. Et Philippe Garrel, il a 73 ans, son père. père. Donc, il est toujours en activité dans le cinéma. Et oui, mais oui, oui. Et puis, il a une sœur aussi qui fait du cinéma. Enfin, bref, il est immergé dans une famille de cinéma depuis l'âge de 5 ans, on peut dire. Puisque là, il jouait d'ailleurs dans... quand il avait 5 ans, le film dans lequel il jouait avait été réalisé par sa maman. Voilà, qui avait mis donc son petit garçon dans le film. Marrant quand même ça. En tout cas, 60 tournages à son actif justement, étant donné l'âge auquel il a commencé, c'est quand même incroyable. Par exemple, donc là, 1988, il avait 5 ans, premier film. Ensuite, pour 2001, il a 18 ans. 19 ans d'ailleurs, 2 en 2001, 18-19 ans. En 2003, il a 20 ans, etc., etc. Ça ne s'arrête jamais. Il a travaillé comme acteur, mais d'une manière extraordinaire quand même. C'est fou. Alors, il a quand même, à son actif, il a 3 courts-métrages et 4 longs-métrages, dont un qui est prévu pour 2022, on en parlera ici à l'antenne de Radio Entre-deux-Mers, L'Innocent. J'ai déjà le titre, mais c'est tout pour l'instant. Voilà, qui va sortir. Donc, c'est un gros bosseur, à mon avis, cet homme-là. Il a, d'ailleurs, en 2006, il a eu le César du meilleur jeune espoir masculin. C'était en 2006. En 2021, il a eu le César du meilleur acteur dans un second rôle. C'était en 2006, Les Amants réguliers, le film. Et là, en 2000, le César du meilleur acteur dans un second rôle, nommé au César du meilleur acteur, c'était dans ADN, avec Mai Wen et Fanny Ardant. Et il a été nommé aussi au César dans le film J'accuse, qui est sorti en 2019 avec Emmanuel Seigné et Jean Dujardin. On a entendu parler, malheureusement, il y a eu une polémique à cause des problèmes du réalisateur. Et puis voilà, en fait, il a 5 prix comme acteur. Enfin bon, il a une très très belle carrière d'acteur. Et puis, de réalisateur, ça s'annonce bien tout ce qu'il fait d'ailleurs. Donc là, La Croisade, ça dure 1h06. Il y a une nomination au Festival de Cannes 2021 dans la catégorie Le cinéma pour le climat. Cette fameuse catégorie éphémère qui a été créée pour le Festival de Cannes 2021 en mai. Et qui perdure pour l'instant. Éphémère, peut-être qu'elle durera très très longtemps. Et là, La Croisade, c'est l'histoire d'Abel et Marianne, qui découvrent que leur fils Joseph, 13 ans, a vendu, ça c'est ce qu'on a entendu dans la bande-annonce, en douce, leurs objets les plus précieux. Ils comprennent rapidement que Joseph n'est pas le seul. Ils sont des centaines d'enfants à travers le monde, associés pour financer un mystérieux projet. Ils se sont donnés pour mission de sauver la planète. Et oui, vaste programme. Alors donc, Louis Garrel joue le rôle d'Abel, c'est le père. Laetitia Casta, c'est Marianne. Alors, il faut quand même savoir, tout le monde le sait, donc on peut le dire, Louis Garrel et Laetitia Casta sont des compagnons à la vie. À la ville, pardon, dans leur vie, je voulais dire. À la ville, dans leur ville, voilà. Donc, en fait, ils sont ensemble depuis pas mal de temps, tous les deux. Voilà, quel joli couple, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait.
Oui, puis alors, Joseph, le petit bonhomme là, qui veut sauver la planète, est joué par Joseph Angel. Ensuite, on a Lionel Drey dans des rôles principaux, Julia Bohème. On a Linka Loni, on a Clémence Jean-Guillaume, Lazare Minougou, Farid Bouznad, Basilis Athanasiadis. Oui, lui, il a un nom un petit peu plus long. Mais voilà, y en a 3 ou 4 dont on ne connaît pas les noms, on n'a pas retenu les noms, mais qu'on connaît, qu'on a déjà vu, si on a l'habitude d'aller au cinéma. C'est sûr. Bon, c'est un joli casting, de toute façon, là aussi. Alors, en fait, c'est le scénariste Jean-Claude Carrière, qui malheureusement nous a quittés en février 2021. Ouais, on avait parlé de lui, d'ailleurs, ici à l'antenne de Radio Entre-deux-Mers. Qui était un grand, grand, grand écrivain, grand scénariste, grand parolier et grand metteur en scène. C'était vraiment quelqu'un d'immense. Donc, il a eu l'idée, c'est lui qui a eu l'idée d'enfants qui se mobilisent pour l'écologie et la sauvegarde de l'environnement. Mais, en fait, au départ, Louis Garrel n'était pas très convaincu quand il lui a proposé ce projet. Voilà, il nous dit qu'il trouvait que c'était une idée d'adulte qu'on mettait dans la tête d'enfant, ça me gênait, ça ne me semblait pas juste. Alors, j'en ai parlé avec des amis, je leur ai lu la scène, et tous trouvaient comme moi que ça sonnait faux. Alors Jean-Claude, bon, bah Jean-Claude Carrière, nous dit Louis Garrel, a été un petit peu vexé au départ, évidemment. Bon, parce que lui, il était sûr de lui. Hein. Jean-Claude Carrière en était sûr. 3 mois plus tard, l'actualité donnait raison à Jean-Claude Carrière. Greta Thunberg faisait la une des médias avec une grève de la faim pour sensibiliser les gens à la cause environnementale. Alors, il se souvient, Louis Garrel, et m'a conseillé, à ce moment-là, Jean-Claude Carrière lui a conseillé de se dépêcher de faire ce film, faute de quoi j'aurais l'air de courir après l'événement. Et voilà. Et c'est en effet ce qui est en train de se passer. Sacrée histoire quand même, le début de ce film, de ce scénario. Alors, Louis Garrel, par contre, revendique le fait de ne pas avoir signé un film militant, radical. « Quand je commence le film, dit-il, ce n'est pas du tout par militantisme. Au contraire, je regarde ces enfants parce qu'ils me sont étrangers. Ma position de metteur en scène et mon rôle de père dans le film m'aident à avoir du recul. » Cette position critique me permet de faire le film. Je n'ai pas fait ce film en disant aux spectateurs « Il faut absolument écouter ces gentils enfants ». Non, ce n'est pas ça. Afin de mieux partager son propos, j'ai décidé, nous dit-il, de miser sur l'humour. Le problème avec la plupart des films militants, c'est qu'ils ne laissent aucune place aux spectateurs. Ils donnent des réponses toutes faites, ils définissent le bien et le mal, et le spectateur n'a plus qu'à suivre. Avec un traitement humoristique, le spectateur, à la place, est obligé, lui, de... Voilà, il a la place, il peut se concentrer, il peut réfléchir, regarder, en même temps, emmagasiner, mais il a sa place. Voilà, le principe de la comédie, nous dit Louis Garrel, est de pousser la réalité un petit peu plus loin. Là, donc, c'est vrai que, à l'instar des enfants de la croisade, d'autres avaient imaginé déplacer une mère dans un désert. D'autres enfants voulaient donc installer une mère dans un désert. Ainsi, par exemple, en 1890, Ferdinand de Lesseps, celui qui a construit le canal de Suez, est allé au Sénat pour proposer de faire entrer la Méditerranée dans le désert algérien pour créer une mer intérieure. Alors, il y avait 2 buts à ce projet, refroidir le climat et créer des terres cultivables. Mais faute de technique et de moyens, le projet était tombé à l'eau. Jules Verne, lui, à son tour, a écrit un livre inspiré de ce projet qui s'intitule « L'évasion de la mer ». Il y a également l'histoire de la Salton Sea, pardon, en Californie, où un barrage s'était effondré et l'eau s'était écoulée dans le désert, créant naturellement une mer intérieure. Alors, comme nous dit Louis Garrel, il y a des géographes, des géologues, des ingénieurs qui ont des idées de ce type, a priori farfelues au départ, mais qui sont peut-être géniales et faisables pour l'écologie globale. Voilà. Donc, le film a été écrit, filmé avant le début de l'épidémie de Covid-19, ce qui fait que le tournage a été interrompu. Voilà. Et puis, ils ont pu repartir après. Il y avait un truc avec ce film, nous dit Louis Garrel. On commence à écrire, il n'y a pas les enfants. Puis les enfants arrivent sur le devant avec Greta Thunberg. On écrit l'alerte aux particules et bing, dit-il, la Covid, survient. Du coup, je parie que déplacer de l'eau en Afrique serait possible. Voilà, ça c'est l'humour de Louis Garrel en fait. C'est ça quoi. Alors bon, ce film est quand même titré « Drôle et familial », une comédie vive et engagée, lumineux, enchanteur pour les fêtes. On a tout dit sur La Croisade.
La Croisade de Louis Garrel. Et maintenant, c'est Antoine Barraud que nous retrouvons avec un film qu'il a réalisé et qui s'appelle Madeleine Collins, avec notamment Virginie Efira.
Et oui, la splendide Virginie Efira. Elle a beaucoup de talent également. Alors, Madeleine Collins, c'est un drame français, belge et suisse. Il dure 1h47 et il a une nomination aux Lumières de la presse étrangère 2021. Antoine Barraud, réalisateur, tu l'as dit, scénariste, producteur français. Il a 20 ans de carrière, 20 tournages. Eh oui, 20 ans, 20 tournages, c'est pas mal ça. 6 nominations. On lui doit en tout cas en 2014 Les Gouffres, le titre qui était... Il y avait Mathieu Amalric, il y avait Nathalie Boutefeu dans ce film. Et il y a eu 4 nominations au Festival de Locarno, Festival du film de Locarno en Suisse, en 2012. Les gouffres. Bah, d'ailleurs, c'était un couple, oui, qui descendait dans un gouffre, parce que c'était leur travail. Mais enfin, on ne va pas raconter, parce que si vous le trouvez, il est quand même... Il y a du suspense dans Les gouffres, en même temps. C'est un drame, il y a du suspense. 2014. Hein. Alors, Antoine Barrault, lui, là, avec Madeleine Collins, il voulait faire un film centré sur une fille. Sur une femme, pardon. Je voulais dire femme et j'ai dit fille. Bon, voilà. Donc, en fait, c'est une femme qui utilise sa profession pour cacher sa double vie. Enfin, on va d'abord raconter l'histoire. Judith, c'est l'héroïne, mène une double vie entre la Suisse et la France. D'un côté, Abdel, avec qui elle élève sa petite fille, et de l'autre, Melville, avec qui elle a 2 garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile, fait de mensonges, de secrets et d'allers-retours, se fissure dangereusement. Prise au piège, Judith choisit la fuite en avant, l'escalade vertigineuse. Donc effectivement, là, on a donc, tu l'as dit, Virginie Efira, c'est Judith bien sûr. On a Bruno Salomon, lui c'est Melville, c'est celui qui a les 2 garçons avec elle. On a Abdel, c'est Kim Gutierrez. On a Loïs Ben-Guerral. On a Nadav Lapide. On le connaît, lui. Même si on a retenu son nom, on le connaît, cet acteur. Et à Jacqueline Bisset, également. Valérie Donzelli. Ah bah oui, il ne faut pas que je l'oublie. Pleine de talent, Valérie Donzelli. C'est un très, très beau casting, de toute façon. Donc, lui, oui, alors, il a fait de. Ce film est au centre, justement, au centre de ce film, pardon, j'ai mis la phrase à l'envers. C'est une femme qui utilise sa profession, je l'ai dit, pour cacher sa double vie. Cela engendre une protagoniste qui bouge et qui fait des allers-retours. Judith est tout le temps en train de défendre l'indéfendable. Eh oui, le personnage principal, donc elle, est à la fois complexe et parfois presque pervers. Mais le réalisateur Antoine Barrault nous dit que Virginie Efira a la faculté de rester sans cesse solaire. Elle est très belle, dit-il, sa beauté n'est ni distante ni menaçante, mais positive. Il a tout de suite su qu'elle comprendrait le film. Joli compliment, là. Alors c'est titré « Virginie Efira, plus troublante que jamais ». Virginie Efira au sommet de son jeu, un thriller vertigineux, beau et palpitant. Très, très, très beau film.
Madeleine Collins.
1h46, je crois que je l'avais dit. Oui, si vous aimez Virginie Efira, ce serait dommage de rater ce film.
Et maintenant, on va retrouver un film de Nihang Kavich, oui, qui s'appelle White Building.
Oui, c'est un tout à fait White Building, c'est-à-dire l'immeuble blanc. Hein, ouais. Oui, voilà, l'immeuble blanc. Tu vois, depuis que j'ai pris des cours d'anglais, je me débrouille presque autant que toi, pas aussi bien que toi encore, mais... Ça vient. Alors, c'est un drame cambodgien, français, chinois, qatarien. Tout le monde s'y est mis. Il dure 1h30. Alors, Nihang Kavich, tu l'as nommé, est un réalisateur, scénariste, producteur, monteur, acteur cambodgien. Il a 34 ans. Il sait en faire des choses, cet homme-là, quand même. Hein, bon sang. Et alors, il a 2 courts-métrages qui ont été projetés le même soir dans le cadre d'un ciné-club. Ça a très, très bien marché. C'était entre 2015 et 2018. Ça commençait bien pour lui. En 2019, on lui doit un documentaire. C'est son premier long-métrage, d'ailleurs. « Last night, I saw you smiling ». Ça dure 1h17. « La nuit dernière, je t'ai vu sourire ». Oh, c'est joli comme titre, ça. Alors donc, son film « White Building » a quand même un prix, 3 nominations à la Mostra de Venise 2021. C'est le prix Horizonti du meilleur acteur pour Chun Piset. J'allais donner son nom justement après vous avoir parlé un petit peu de l'histoire. Alors, on a un personnage qui a 20 ans, qui s'appelle Sam Nang, et qui doit faire face à la démolition de la maison qu'il a toujours habitée à Phnom Penh. Alors, Phnom Penh, c'est la capitale, hein, du Cambodge, on connaît. Le White Building, il doit le quitter Voilà. Et il est, en fait, il est en butte aux pressions de la famille, des amis et des voisins qui surgissent et se croisent alors que sonne la démolition du bâtiment. Donc, on a dans le rôle principal celui qui a eu le prix Horizonti du meilleur acteur, Chun Pisset. C'est un acteur cambodgien. Il joue donc Sam Nang. On a un autre acteur cambodgien, Soem Chinaro, dans les rôles principaux, et une actrice cambodgienne, Jenny Min. Alors, c'est un immeuble, c'est l'histoire d'un immeuble, des familles qui sont là dans cet immeuble et d'un combat. C'est ça, White Building. Chouette, hein? Mais en même temps, c'est vrai que ça laisse une impression de désolation quand même. Mais ça a dû arriver à un tas de gens, ça, sur la planète, hein, d'être obligé un jour de quitter un immeuble qui va être démoli. Et ça doit être quand même extrêmement difficile, douloureux. Surtout comme Sam Nang, le héros, qui a toujours habité là, depuis tout petit. À 20 ans, c'est pas facile.
White Building.
Oui.
Et maintenant, c'est Neer Berkman que l'on retrouve avec son film « My Kid ».
Oui, « My Kid ». C'est un drame israélien et italien. Il a une nomination au Festival de Cannes 2020, catégorie label « Les nouveaux venus ». Joli label, ça. Alors, Neer Berkman, oui, tu le dis, réalisateur, scénariste, créateur de showroom. C'est un créateur et un showrunner également. Un peu la même chose. Et en fait, il a travaillé là avec une scénariste à laquelle il est habitué apparemment, Dana Idizis, qui fait du bon travail, si on a bien compris. Donc lui, il est israélien, Neer Berkman, il a 52 ans, 19 ans de carrière, 7 tournages à l'actif. Alors, il y a eu, à son actif, pardon. Alors, en 2012, il a réalisé un film qui a très très bien marché, La grammaire intérieure. C'est un drame israélien qui a 2 nominations. C'est l'histoire d'un garçon, en fait, de 11 ans dans un quartier de Jérusalem et qui décide d'arrêter de grandir. Il y a du fantastique aussi, un peu. C'est une histoire assez incroyable. Beau film, hein, si vous ne l'avez pas, on le trouve en DVD, pas cher. La grammaire intérieure, 2012, de Neer Berkman. Alors là, on a qui, là ? My Kid, Aaron, a consacré sa vie à élever son fils autiste, Uri. Uri, je pense qu'on dit. Hein. Oui, Uri. Ensemble, ils vivent dans une routine coupée du monde réel. Mais Uri est à présent un jeune adulte, avec de nouveaux désirs et de nouveaux besoins. Alors qu'ils sont en route vers l'institut spécialisé qui doit accueillir Uri, Aaron décide de s'enfuir avec lui, convaincu que son fils n'est pas prêt pour cette séparation. Alors dans les rôles, on a Aaron Sechai Avivi. Alors c'est un acteur israélien qui est très connu chez lui, j'ai vérifié. Effectivement, un grand acteur israélien. On a Noam Amber qui joue le rôle du jeune Uri. On a Smadi Wolfman qui est une actrice française, elle. Elle joue le rôle du docteur, pour la situer. Hein. Si vous regardez les séries, c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance, moi, comme actrice d'ailleurs. Elle joue dans la série policière K1. Elle joue le rôle du docteur Stuna. Le docteur, le légiste, enfin la légiste, c'est elle, c'est Smadi Wolfman. Excellente dans son rôle de légiste, donc ça ne doit pas être mal du tout dans My Kid. Et puis on a une Israélienne également très connue chez elle, Efrat Benzour, qui est une actrice, une très excellente actrice, grande actrice, très connue, oui. Alors, la scénariste Dana Idizis, là, en fait, elle s'est inspirée pour cette histoire de la relation entre son frère autiste et son père. Alors, du coup, Neer Berkman, le réalisateur, qui les connaît tous les deux, personnellement et à travers le documentaire qu'elle a réalisé sur sa famille, lui a demandé, évidemment, de l'aider à écrire ce scénario. Il a confié le rôle d'Uri à un acteur, Noam Amber, et non à un vrai adolescent autiste. Et il nous explique, il nous dit qu'en Israël, on ne trouve pas une pratique pour les autistes de théâtre, de jeu, etc., pour des besoins thérapeutiques, mais aussi artistiques. On ne trouve pas ça en Israël tel qu'on la trouve, tel qu'on trouve cette pratique, notamment en Occident. Il n'a donc pas trouvé un acteur autiste qui aurait pu convenir à l'histoire du film. Parce que nous, on a, enfin moi, j'ai un film qui me vient à l'idée là. C'était le septième jour, je crois, ça s'appelle, où il y avait les deux héros. Le jeune héros, était un acteur autiste. Bon, j'aurais dû chercher son nom, mais j'ai pas eu trop le temps, mes chéris. Il y avait pas mal de films à sortir, mais ouais, c'est ça, c'était le septième jour, ouais, ça. Et c'était un excellent acteur, autiste d'ailleurs. Il a eu un prix, je crois qu'il avait eu un prix pour le film. Oui. Donc lui, il n'a pas pu parce qu'en Israël, apparemment, on ne fait pas ce genre de choses avec les autistes. C'est-à-dire on ne les implique pas dans des jeux, dans le théâtre, dans des films. Donc il n'a pas trouvé, effectivement. Voilà, donc l'acteur n'est pas très connu, mais bon, il voulait que les gens ne puissent pas reconnaître un acteur identifié. Donc c'était très bien pour lui. Voilà, donc ce qu'on peut dire sur My Kid.
Et maintenant, c'est un film de Lana Wachowski, c'est le troisième, me semble-t-il, Matrix Résurrection.
Oui, Matrix Résurrection, oui, c'est un...
C'est bien le troisième ?
Oui, c'est ça.
Il y a eu un long moment d'arrêt. Maintenant,
tout à fait.
La résurrection.
Oui, la résurrection, 2h28.
Alors, c'est toujours l'histoire de Noé ?
Oui, c'est toujours. Action, science-fiction, c'est américain. Ouais. Lana Wachowski, oui, c'est une réalisatrice, scénariste, productrice américaine. Elle a 56 ans, 26 ans de carrière, 13 tournages à son actif, 2 prix, 10 nominations. Mais c'est elle qu'on doit, avec sa sœur d'ailleurs, je crois. Jupiter, le destin de l'univers, avec Channing Tatum, qu'on connaît, hein, on l'a déjà vu, il est repassé à la télévision, imprécis nomination quand même. Donc là, c'est le... Ah oui, non, on l'a dit, non, tu as dit, oui, c'est ça, c'est le quatrième celui-là. Oui, c'est ça, quatrième volet de la saga Matrix. Voilà, c'est ça. Lancé, le premier, c'était en 1999. Alors, le film nous replonge dans deux réalités parallèles, celle de notre quotidien et celle du monde qui s'y dissimule, pour savoir avec certitude si sa réalité propre est une construction physique ou mentale, et pour véritablement se connaître lui-même, il devra de nouveau suivre le lapin blanc. C'est-à-dire Neo, hein, qui est joué d'ailleurs par Keanu Reeves.
Oui, il est toujours au poste.
Il est toujours au poste. Et si Neo, qui s'appelle Thomas également, a bien appris quelque chose, c'est qu'une telle décision, quoique illusoire, est la seule manière de s'extraire de la matrice ou d'y entrer. Bien entendu, Neo sait déjà tout ce qu'il lui reste à faire. Ce qu'il ignore, en revanche, c'est que la matrice est plus puissante, plus sécurisée et plus redoutable que jamais. Alors là, c'est comme un air de déjà-vu, effectivement. Il y a lui, il y a Carrie Ann Moss aussi. Carrie Ann Moss, c'est une grande actrice. On a Max Riemelt, on a Jada Pinkett Smith et on a Jonathan Croft dans les rôles principaux de Matrix Résurrection. Bah, pour ceux qui ont vu les autres, hein, Matrix 1999, Matrix Reload, c'est-à-dire rechargé, c'était en 2003. Et Matrix Revolution, c'était en 2003 également. Les trois opus ont été réalisés par deux sœurs, en fait. Il y avait Lana, là, qui nous fait la résurrection, et il y avait sa sœur Lily Wachowski. Voilà. Mais cette fois, elle est seule. Elle était seule aux commandes. Eh oui. Et puis, il y avait The Cloud in a Room. Est-ce que tu l'as, celui-là, toi, Damien ?
De Xinyuan Zheng Lu.
Oui, c'est ça. The Cloud in Her Room. Réalisatrice, scénariste, monteuse chinoise. Oui, tout à fait. Bah, c'est un hiver humide à Hangzhou. Attention, parce que là, Hangzhou. Moi, je vais bouffer un petit peu le G pour pouvoir dire Hangzhou. Voilà, Hangzhou, en fait, c'est la capitale de la province chinoise du Zhejiang. C'est le terminus, en fait, sud de l'ancien canal qui part de Pékin, pour un petit peu situer. Alors, Muzi, rentre par le nouvel air lunaire. Ah oui, c'est ça, puisque c'est un hiver humide. L'ancien appartement de ses parents, les parents de Muzi, est toujours là. Un lit, une chaise abandonnée, une fenêtre abîmée, les restes d'une relation qui a évolué. Son père a fondé une nouvelle famille, sa mère est en couple avec un étranger. Muzi replonge dans ses souvenirs et tente de trouver des repères dans cette ville si familière et pourtant si changée. La jeune femme est tiraillée entre passé et présent, entre la fuite et l'éternel retour. Alors, on a Zhu Chen dans les rôles principaux. Ye Hong Ming, Jin. Alors, c'est Muzi est joué par Jin Cheng. Et on a Dong Kanning. Ce sont évidemment des acteurs chinois. Ça dure 1h41. The cloud in her room. Le nuage dans sa chambre. Dans ta chambre. Non, c'est sa chambre. Voilà. C'est chinois, hongkongais, je crois que je l'avais dit, hein.
Tu voulais aussi aborder le fait qu'il y a des films qui ressortent au cinéma. Ce sont des vieux films.
Ah oui.
Il y en a deux notamment, Le journal d'Anne Frank et Laurel et Hardy au Far West.
Oui,
tout à fait. C'est deux salles, deux ambiances.
Ah oui, oui, complètement. Laurel et Hardy au Far West, qui avait été réalisé en 1938, qui dure 59 minutes, de James W. Horn, qui est un réalisateur scénariste américain, qui est décédé à 60 ans en 1942. Alors, c'est Laurel et Hardy au Far West. Selon les dernières volontés d'un ami, Laurel et Hardy sont chargés de remettre à sa fille, Mary Roberts, le titre de propriété d'une mine d'or. Stan Laurel, Oliver Hardy, Rosina Lawrence, qui est une actrice canadienne. Et on a James Finlayson. Alors, Stan Laurel, c'était un Britannique, lui. C'était pas un Américain. Oliver Hardy était Américain. Il est décédé en 1957 à 65 ans, Oliver Hardy. Et Stan Laurel est décédé en 1965 à 74 ans. Et puis, on ressort là pour le 22, trois courts-métrages sonores de Laurel et Hardy, Délire à deux, Les bons petits diables, Les bricoleurs, Laurel et Hardy, Menuisier. Ils sont sonores, ceux-là, 55 minutes. Et Laurel et Hardy, premier coup de génie, tourné en 1929. Le premier, Les délires à deux, c'était 1933. Là, c'est 1929. Trois courts-métrages muets. Œil pour œil, La bataille du siècle et Vive la liberté. 52 minutes, c'est magnifique, en fait. Vraiment, Laurel et Hardy, qu'on n'a pas vu depuis tellement longtemps. Ils sont toujours aussi magnifiques tous les deux. Et puis Anne Frank, et oui, Le journal d'Anne Frank qui a été, lui, réalisé en septembre 1959, qui dure 2h50, qui a eu 3 Oscars pour Chelley Winters qui joue dedans, pour la photographie aussi, l'Oscar de la photographie, l'Oscar des meilleurs décors et nommé également Oscar du meilleur film de George Stevens. Voilà. Qui était le réalisateur américain à l'époque, qui est décédé, lui, à 70 ans, en 1975. Il y a 3 prix, 5 nominations donc, pour le journal d'Anne Frank, qui ressort là à partir du 22. Ça, on connaît, hein, puisqu'il n'y a pas longtemps, on a parlé « Où est Anne Frank ?» qui est sorti
le film d'animation qui est sorti là.
Le 8, le 8 décembre, voilà, qui est une animation dont on a parlé. C'est curieux que tout d'un coup, on ressorte ce film qui est magnifique parce que c'était Millie Perkins qui jouait le rôle d'Anne Frank. Elle a 83 ans aujourd'hui. À l'époque, elle avait 21 ans. Eh ouais.
Très bien. Eh bien. Merci beaucoup, Anne, pour toutes ces sorties. Oui. On se retrouve mercredi prochain pour la dernière émission de l'année.
Tout à fait.
Et d'ici là, passez une bonne semaine. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver les podcasts sur le www.re2m.com.
Tout à fait. Merci, Damien. En tout cas, j'aurai des documentaires aussi pour la prochaine fois. Très, très intéressant. Je vous en parlerai. Et puis, écoute, je te souhaite toi aussi. Oh, dis donc, je te souhaite des bonnes fêtes de fin d'année.
À toi aussi, bonne Noël.
Et mes chéris, mais bien sûr, quand vous faites, Radio Entre Deux Mers, vous faites les meilleures fêtes de fin d'année que vous puissiez avoir. Soyez heureux, profitez-en. Profitez bien de cette avant-nouvelle année. Voilà. Alors, en tout cas, n'oubliez pas que je vous aime. Bisous.
Silence. Thank you. yeux du